musicale improbable de Montréal revient pour une 12e édition entre sieste musicale, théâtre, danse, poésie, installation et art visuel. Noise India, un fascinant road movie multimédia dans les ports d'Inde. Entre documentaire et fiction, découvrez les Shipbreakers. Avec les fantaisies des escales brouillon numéro 2, débranchez-vous de la routine. Une grande soirée où se rencontrent musique, cirque, art visuel en direct, projection. Vous voulez participer à une expérience théâtrale collective avec les deux artistes portugais Ana Borralho et Juanjo Galente? Atlas Montréal, c'est une véritable agora qui réunit 100 citoyens de toutes professions, générations et origines. Venez voir une expérience humaine unique. Achetez vos billets et découvrez toute la programmation sur escaleimprobable.com.
Du 16 au 20 septembre, le Festival international de musique pop Montréal présentera sa plus grande édition à ce jour. La 14e édition du festival prendra d'assaut un paquet de salles de spectacle, de clubs, de théâtres et d'églises à travers la ville pour vous offrir 5 jours de festivités, de musique, d'art et de cinéma. Au programme, Giorgio Moroder, Barbara Lynn, Cœur de Pirates, Braids, Thurston Moore, Vieux Far Catouré, Motherhead et plus de 400 autres artistes, ainsi que des ateliers, des discussions, un défilé de mode, une foire du disque et un marché d'artisanat. Visitez popmontréal.com pour vous procurer des billets et des passes, découvrir nos forfaits ou obtenir plus d'infos. Hey, Choc t'invite à passer le 14 septembre à ses locaux pour participer au concours Quetranada. Plus d'infos sur notre page Facebook.
Vous écoutez Choc pour sortir des ombres. Podcast, musique, découvert sur choc.ca.
Bonjour à tous et bienvenue à cette toute nouvelle édition de Pop en Stock Podcast, ce podcast unique dans le web francophone. Pop en Stock est une revue savante nouveau genre conçue pour optimiser l'observation de la culture populaire en temps réel, y'all. Tous les semaines, on se donne à cœur joie dans l'observation et la décortication de la culture pop. Tout domaine de la fiction populaire contemporaine confondu, cinéma, bande dessinée, cyberculture, etc. Bonjour à tous et bienvenue. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais ça me fait absolument plaisir d'être ici aujourd'hui et pour parler de ce qui échappe à nos yeux. De Siegfried à Bond, de Platon à Potter, des Hobbits à Hitchhiker's Guide to the Galaxy, nous consacrons l'émission de la semaine à une thématique issue du mythologique, pour se rendre jusqu'aux préoccupations des plus extrêmes contemporains. Que ce soit un sérum ou la capacité de plier la lumière, l'invisibilité sous toutes ses formes obsède l'humain depuis qu'il a la possibilité de mettre sur support des récits. Ce thème permet d'explorer l'imaginaire de l'humain, mais aussi se donne à la dénonciation et à la description des pires comportements connus de l'homme. L'invisibilité en culture pop est à la fois une trope, à la fois un archétype, mais aussi un outil philosophique. Et c'est pour cette raison que ça me fait plaisir d'accueillir pour sa première fois à l'émission, et certainement pas pour la dernière, Philippe Saint-Germain, qui est professeur de philosophie au Collège Antique, chercheur régulier à la chaire de recherche Figura. Bonjour!
Bonjour Jean-Michel. Ah, merci vraiment de m'avoir invité ici.
Ah, d'où c'est super plaisir.
J'espère ne pas être trop pire, hein, que je puisse revenir.
Ça me surprendrait quand même, avec toute la conversation qu'on a eue en début d'émission, partant à la fois de l'invisibilité, mais aussi grosse discussion sur les t-shirts que tu portes présentement. Qui,
avec Swamp Thing. Ouais.
Exactement. Radiophoniquement, est un peu perdu pour les gens. Mais c'est quand même intéressant ça, de parler de la radio. C'est quelque chose, un thème qui revient régulièrement avec moi, cette idée qu'on n'est pas, on n'est pas en contact direct avec les personnes qui nous écoutent. Il n'y a rien fondamental. Surtout que, normalement, le contact vocal se fait à travers des vibrations. Ici, dans notre cas, la vibration est transformée en unité numérique, donc en une ligne de code interminable entre des 0 et des 1, et ensuite retransmise. Fait qu'il n'y a rien, fondamentalement, qui vient rejoindre toi qui nous écoutes et nous qui sommes en studio présentement. Ça me fascine.
Oui, je suis d'accord avec ça. ce que tu me disais aussi, là, c'est en me présentant comme prof de philo, c'est un peu le filon que je peux suivre pour introduire mon propre intérêt à ce thème-là, qui est là quand même depuis un petit bout de temps à travers les films, les romans que j'ai pu lire et voir quand j'étais plus jeune. Mais je reviens dans mon enseignement de philosophie au collège, entre autres, un mythe de Platon. Donc là, on n'est pas en grec aujourd'hui à l'émission, fait que...
On devrait.
Ouais.
Tu veux dire en grec comme en babette et en toge? On peut s'arranger.
Comme ça. Ouais,
on part en musique, on revient en grec.
Donc le mythe de l'anneau, on va l'appeler gigès pour aujourd'hui, parce qu'en grec, ça pourrait être gigès ou gigès, mais ça ne me tente pas de m'enferger là-dedans. Donc ça, c'est une expérience de pensée que Platon a développée. Donc comme plusieurs philosophes, Platon, des fois, joue un peu avec la fiction, puis avec des motifs, à mon avis, à moi, qui tiennent davantage de la culture pop à première vue que de la philo. C'est des expériences quand même assez éloignées à première vue de ce qu'il y a de plus concret. C'est des fictions, c'est de l'imaginaire, mais les philosophes souvent s'en servent pour appuyer ou comme tremplin pour la réflexion. Donc cette histoire-là, il la raconte dans le deuxième livre, La République, qui est un livre dans lequel il essaie d'établir sa cité idéale sur à peu près tous les plans, éducation, côté militaire et tout ça. Et c'est dans une discussion sur la justice, parce que je pense que c'est un sujet qu'on va peut-être aborder quelquefois aujourd'hui, les enjeux éthiques d'être invisible, de ne pas être vu. Donc c'est une discussion sur la justice, puis on essaie de se demander entre autres pourquoi est-ce qu'on agit bien dans la vie. Est-ce que ça serait par tempérament, donc quelqu'un qui serait une bonne personne agirait nécessairement comme il faut. Ça pourrait être aussi par une connaissance innée du bien et du mal, mais ça pourrait être aussi par convention, puis par peur d'être surpris. C'est là que l'histoire intervient. Donc Platon imagine un berger qui tombe par un hasard étrange sur un cadavre, c'est assez horrifique comme scénario, qui porte un anneau, donc qui est assez beau, donc il se le glisse à la main, il tourne le bouton, et se rend compte que ça le rend invisible. De la misère à croire ça, il réessaie une deuxième fois, se rend compte que ça fonctionne encore comme ça. Et là, ce qui suit, c'est très court comme mythe, là. C'est 2-3 pages tout au plus, c'est la description de tout ce qu'il fait. Il faut qu'il devienne invisible. Et là, ce qu'on voit, bien sûr, il n'y a rien de très moral là-dedans. Il va se mettre à voler, à manipuler, il va séduire la reine, comme un fantasme sur plusieurs plans, à la fois les privilèges qu'il va aller obtenir, mais des fantasmes plus érotiques aussi. Donc, il va séduire la reine, il va tuer le roi, il va s'approprier le pouvoir de ce roi-là. Et à l'issue de cette toute histoire-là, donc c'est un dialogue, ça veut dire qu'il y a plusieurs points de vue qui sont exprimés, il y a comme une vision plus négative ou plus pessimiste peut-être, qui sous-entend que, au fond, devenu invisible, n'importe qui commettrait ce genre d'acte-là. Même la meilleure personne possible perdrait tout sens de la moralité, justement parce que, généralement, il agit bien juste parce qu'il est surveillé. Parce qu'il y a des comptes à rendre.
Ça me fait penser à la scène dans Clerks, en fait, où il est en train de passer du temps avec sa blonde derrière le comptoir, puis qu'il y a juste une petite note qui est écrite, « Laissez le bon change », et qui explique, en fait, sa blonde synthétise le bon réflexe « Honesty through paranoia », donc qu'on ne serait que des bonnes personnes parce qu'il y a quelqu'un à côté qui est capable de nous juger, et que si t'enlèves ça.
Donc, dans ce cas-là, tout peut arriver. Ça, on peut dire que c'est un point de vue peut-être plus fataliste, mais en même temps, si on regarde les autres fictions sur l'homme invisible, après ça, c'est plutôt cette option-là qui domine, en tout cas assez souvent. Là. C'est que l'invisibilité libère un certain potentiel qui jusque-là était pas s'exprimait pas. Mais en même temps, il y a l'autre point de vue aussi qui est exprimé. C'est Socrate qui l'exprime. On pourrait le qualifier de naïf, peut-être, mais peut-être d'optimiste aussi. Lui, il dit non, c'est le tempérament qui importe. Donc le dispositif... Une bonne personne qui est honnête, tu mets l'anneau qui te rend invisible, tu vas rester honnête. Ça ne change absolument rien. Et au contraire, quelqu'un qui ferait le mal de toute façon va le faire quand même. Donc
évidemment, je suis plus de ce côté-là, moi.
Oui, ouais, je comprends. Mais dans les fictions, en même temps, surtout quand j'imagine quand tu veux générer du conflit aussi, puis du revirement de situation, on dirait que c'est l'autre volet qui a l'air de gagner.
Mm-hmm. Oui, mais c'est toujours ça quand... On offre la possibilité de tenter le diable avec le pire, comme on le voit souvent, l'hyper-intelligence, c'est pas la manne des gentils. Les plus importants vilains de l'histoire, de la fiction, c'est des gens qui sont excessivement brillants. T'sais, dès que tu donnes un attribut surhumain à quelqu'un, la tendance va à croire que ils vont en abuser. T'sais. Ça va de même pour Invisible Man, mais c'est vrai. Mais pour l'invisibilité en général, mais plus précisément pour l'Invisible Man de H.G. Wells. Mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on parlait avant l'émission. Tu disais, ben, il n'y a pas vraiment de récit de personnes qui sont invisibles, bénéfiques.
C'est plus dur à trouver, mais c'est ça, ce serait comme un récit éducatif ou édifiant sur le bon comportement, alors qu'en général, que ce soit le thriller ou le...
Ouais.
C'est bien, entre autres, de voir que quelqu'un, ou même quelqu'un qui avait l'air merveilleux, qui subitement commence à pogner une chute à cause d'un événement ou d'un autre, là, l'invisibilité peut jouer ce rôle-là. Puis ça libère quelqu'un de pogné ou de qui était pris dans les cadres de la société, qui là, subitement, tout est permis.
C'est ça, mais en même temps, c'est là où ça devient intéressant, parce que tu peux essentiellement faire la psychanalyse de la fiction au grand complet, là, si on peut se permettre ces grosses... grosse phrase autoritaire, mais tu sais, c'est ça, c'est que si on n'est pas capable de se figurer une fiction où quelqu'un est invisible qui est correct, c'est peut-être parce que fondamentalement, il n'y a personne qui y croit. Mm-hmm. Tu sais, puis c'est là où l'émission va nous apporter, va nous amener et va nous apporter des arguments sur l'extrême contemporain présentement, où ce que l'invisibilité est un couteau à double tranchant. Mm-hmm. En même temps, c'est drôle, je demandais la permission au début de l'émission, puis c'est super correct de me l'avoir permis, mais tu sais, moi, personnellement, pour les gens qui écoutent l'émission depuis assez longtemps, vous savez que j'ai des problèmes de voix qui font en sorte que ça arrive à quelques occasions que je dois aller me faire opérer. En me faisant opérer, on m'oblige une semaine de silence absolu où je dois pas du tout parler, chose que j'ai jamais réussi à faire jusqu'à présent, 7 jours sans parler, c'est pas arrivé. Mais ça a été quand même proche. Et je raconte pas ça pour rien. En fait, un des trucs qui revient, qui émerge à chaque fois que je suis post-opération, c'est une colère. Je suis, Marie-Ève le sait, ma copine, quelques-uns de mes amis le savent, j'ai une colère totalement imprévisible, en fait, qui n'a aucun point d'origine et que je ne me comprends pas moi-même, qui s'abat sur moi pendant cette semaine-là. Au début, je pensais que ça venait de la capacité de voir les failles dans le monde. C'est que lorsqu'on n'interagit pas, lorsqu'on parle pas, on est plus à l'écoute. Puis quand on est plus à l'écoute, on finit par pouvoir plus aptement cerner les erreurs qui nous entourent. Mais plus loin, je me suis rendu au point, parce que la réflexion était devenue peut-être plus philosophique, peut-être plus métaphysique, où ce que je me disais, c'est la distance. C'est l'éloignement que j'ai à... que je ressens envers les autres, qui fait en sorte que je ne peux plus tolérer, c'est peut-être un gros mot, mais je ne peux plus tolérer ma condition d'être social si je ne peux plus interagir vocalement. Parce que je peux quand même faire des mimes, je peux quand même écrire, et ainsi de suite, mais la frustration est si grande que je me soutire de la condition humaine. Puis ça, c'est une grosse, grosse, grosse affirmation. Et en relisant Invisible Man de H.G. Wells, c'est à travers cette frustration-là que je me suis retrouvé, je me suis reconnu dans Griffin. Tu l'as dit dans l'article, en fait, l'article que tu as publié sur le blog du NT2, ben, ton blog du professeur S sur NT2, que oui, c'est peut-être fondamentalement un mal de l'humain qui vient être exacerbé par la potentialité de l'invisibilité. Mais je pense qu'il y a aussi ça, la distance qu'on ressent, le fait que on n'est plus un être humain à part égale. On est un être humain à part entière, oui. Mais même jusqu'à LXG, The Extraordinary Gentleman, d'Alan Moore, que je disais récemment, Griffin n'est jamais traité comme un membre de l'équipe égal aux autres. Je ne sais pas à quel point est-ce que Moore voulait décrire ça dans l'œuvre, mais il y a une distance. Et on à la fois... à la fois chez le personnage qui traite les autres comme autres, mais les autres aussi le traitent lui comme autre. Cette distance-là, elle peut grandir et amplifier cette colère et cette frustration-là, que je trouve qui est vraiment intéressante parce que, encore, elle vient d'écrire quelque chose qui est mythologique, qui est philosophique, qui va chercher très, très, très loin et qui nous informe totalement sur un contemporain actuel.
Cet isolement-là, ça, moi, je trouve que le mythe de Platon est intéressant, mais il y a... On dirait qu'il laisse un vide immense à la fin. C'est comme la libération du comportement où tout est possible. Mais en général, dans les fictions, il y a comme un aftershock aussi. Là. Comme après coup, il y a à subir cet état-là qui est plus... Même, il y en a qui l'ont jamais vraiment vécu comme une libération non plus. Ça a comme toujours été un poids. Alors que certains l'ont vécu pendant un temps comme, bon, ce par quoi le scandale arrive dans le meilleur sens du terme. Mais ça finit par devenir un fardeau, un facteur d'isolement.
Mm-hmm.
Et ça, dans le récit de Platon, c'est sûr que la préoccupation, c'est vraiment l'acte au moment où il est posé. Pourquoi est-ce qu'on agit comme il faut? Donc là, il a comme laissé, au fond, les auteurs et les artistes en général imaginer la suite. Mais c'est souvent ce qui finit par accompagner ce prodige-là qui peut avoir été intéressant, mais qui devient plus lourd à la fin.
Oui, c'est ça. C'est que Platon voulait clairement... C'est un conte philosophique. Il voulait parler de comme sommes-nous fondamentalement mauvais.
Bon, sur la nature humaine, dans le fond. Ça dépend de la vision qu'on en a. Ça va... Donc, on va avoir un point de vue différent. C'est sûr que le dialogue étant un dialogue avec deux points de vue, mais un peu en scène. Il y en a un qui est un peu plus... Tu sais, peu importe le tempérament, le dispositif va nous mener d'un côté. Ça, c'est vraiment enlever un peu la charge de l'agent, puis son choix, puis son impact.
Puis c'est très vrai. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis la destinée que l'on appelle la main invisible... T'sais, dès qu'on croit trop à la destinée, ben là, on commence à dire qu'il y a peut-être les anges et les démons, les trucs qui nous amènent, le karma positif, le karma négatif, peu importe l'épithète que vous voulez y donner, là, mais la main invisible du destin nous mène à droite ou à gauche, ou en bas ou en haut, ou à pousser ou à retenir. Pour vraiment couvrir le spectre des possibilités. Mais c'est ça qui est très intéressant. En même temps, les gens qui... ensuite ont voulu en faire des fictions, ne sont, t'sais, eux autres se sont pas contentés de laisser la fin ouverte puis de dire
non.
Les choses sont ce qu'elles sont. T'sais.
Il y en a qui ont quand même laissé certaines choses ouvertes parce que, toi, je sais que tu viens de relire Wells, mais il
ouais.
y a des aspects dans le côté libérateur de l'invisibilité qui est pas poussé dans ce roman-là autant que dans d'autres fictions. Bien que le personnage pose des actes qu'il n'aurait jamais posé autrement. Mais beaucoup de gens reviennent, entre autres, sur la dimension érotique manquante. En tout cas, je me rappelle pas d'allusion très précise là-dessus. Alors que pour plusieurs, en tout cas, quand on regarde des productions culturelles plus récentes, en tout cas, après Wells, en tout cas, c'est un domaine, un aspect qui a été...
Ben,
je pense, entre autres, à le film de Verhoeven, Hollowman, en 2000.
Ouais,
là, c'est un des aspects qui est approfondi. Mais il me semble dans les...
Ben, dans Elegy, ça l'est. Ben, en fait, dans Elegy, il est découvert dans un couvent de jeunes dames qui c'est très intéressant parce que le cas, essentiellement, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires sont appelés à aller investiguer ce cas-là, qui est dans une école de réforme pour jeunes dames, qui, miraculeusement, est abattu de deux cas et un troisième apparaît pendant l'investigation de Immaculée Conception. C'est ça, l'idée, c'est que là, ils sont comme, OK, ils commencent à avoir des jeunes dames avec enfants un peu de partout. Est-ce que ce truc-là qu'on croyait arriver seulement une fois dans un contexte extrêmement religieux et sacré peut s'abattre deux fois sur cette école-là qui s'appelle la Schadenfreude, qui est merveilleusement bien dessinée, assez malade. Elle prend la forme d'une paire de fesses avec une porte d'entrée qui est une main prête à administrer la fessée. Mais non, on découvre que suite au roman de H.G. Wells, où on croyait que Griffin meurt, en fait, il a monté un coup et il est pas mort. Il s'est retrouvé puis il s'est caché dans ce lieu-là. Et ça en donne à cœur joie à être l'Immaculé dans l'Immaculée Conception. Puis c'est là où on découvre même Mina a le bon sens de lui projeter un gallon de peinture au visage. Puis de faire comme non, finalement, c'est pas ça.
Mm-hmm.
Mais encore, tu vois, ça vient connecter au base instincts. Ouais. L'invisibilité nous permet d'aller soit être violent ou soit d'être sexuellement débridé. Là,
quand tu parlais aussi de des intelligences extrêmes, ça, c'est avec le roman de Wells, l'autre apport aussi qui n'était pas là dans le vieux mythe. C'est d'intégrer ça en même temps dans une troupe de savants fous, puis de projets.
Ouais.
Parce en général, les personnages, parce que dans le mythe de Platon, ils trouvent l'anneau un peu par hasard. Il n'y a pas de rôle à jouer, vraiment. C'est comme le...
c'est un everyman, là.
Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est un peu le récipiendaire du sort qui l'amène à ça. Tandis que dans Invisible Man, là, déjà, de la causer soi-même, ça ajoute certaines choses. Puis surtout que c'est un projet pour lequel, en général, les personnages finissent par payer, comme à peu près tous les savants fous aussi. C'est des projets. Déjà, le projet qui se retourne contre soi-même, c'est un peu ça aussi dans l'invisibilité aussi. Des choses qui... On le fait parce qu'on a en vue, des exploits ou des fantasmes réalisés ou des exploits scientifiques aussi, là, si on veut rester plus pudique. Mais éventuellement, ça vient complètement...
Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que là, on voit via la science-fiction, parce que c'est souvent à travers la science-fiction que l'invisibilité est récupérée, on voit une actualisation du mythe de Icare. Mm-hmm. Quelqu'un qui utilise la technique pour atteindre quelque chose, c'est un inconnu ou une impossibilité de l'humain, on atteint le post-humain, on atteint une altération radicale du fondement du génome et de la fonction, de la fonctionnalité de l'humain, l'endogène. Et tu brûles, puis tu tombes, ou tu... Imaginez-vous tous les sorts de tous les monstres de la Universal, puis vous avez essentiellement une belle façon, mais c'est ça, tu sais, faites attention à ce que vous voulez, faites attention quand vous voulez atteindre des trop hauts sommets, Icare voulait voler, non, un humain ne devrait pas voler, non, un humain ne devrait pas...
Comme le mythe de Prométhée aussi en même temps, un petit peu. Ouais. C'est plus la dimension frankensteinienne, mais là, l'espèce de s'approprier un pouvoir avec lequel on n'est pas capable de composer. Mm-hmm. Puis le lien à la folie aussi, il me semble que c'est souvent... Parce que là, si on prend un peu le roman de Wells, c'est des gens dont le corps est complètement altéré. Là. C'est clair que c'est ça que ça touche, mais finalement, la psyché finit par s'effriter quasiment tout autant.
Ouais, c'est ça, si tu touches au corps...
Ouais.
Mais c'est ça, c'est que le personnage de Griffin explique, ou du moins H.G. Wells explique parfaitement bien comment la psyché de Griffin est affectée par ce champ de possibilités-là qui ouvre. Mais en même temps, c'est pas toujours pour les meilleures raisons. Tu sais, un autre invisible célèbre, c'est Sue Storm de Fantastic Four, tu sais, qui, elle, ne vire pas. N'a pas de folie, en fait, pas proprement parlé, mais est capable de se ramener à un état visible à n'importe quel moment. Mais ça vient quand même, le pouvoir de l'invisibilité vient totalement altérer son rôle social. T'sais, en quoi est-ce qu'elle devient une manifestation, un embodiment of the real de la disparition de l'attention que Reed Richards porte sur elle. Fait que, tu sais, il y a cette façon-là, tu le disais en début d'émission, de traiter cette philosophie-là, de traiter cette psychologie-là et de lui donner corps via cet exemple-là qui est classique.
Mm-hmm. Ça touche en même temps le rapport au monde, le rapport à l'autre, mais le rapport à soi est assez profondément troublé aussi par ça. Puis c'est souvent une des raisons dans les fictions que j'ai relues un peu ou revues que comme une difficulté, puis tu parlais même dans ton anecdote personnelle aussi,
ouais.
À connecter, à reconnecter une fois que... Puis même... Il y a des tentatives de ces personnages-là pour redevenir visibles à travers les motifs hyper classiques, comme les fameux bandages ou le masque, les lunettes, ça devient quasiment des espèces d'images type. Puis c'est une façon partielle, mais qui fonctionne jamais complètement, parce que c'est pas une présence qui est tellement marquée, puis qui contraste tellement par rapport aux autres que...
Ouais,
c'est pas ça. D'intégration aussi complète qu'on voudrait.
C'est vrai que quand il rentre dans l'auberge au début, dans le roman de Wells, il est malgré qu'il est corporel ou visible, il est quand même traité comme un autre. Puis il n'y a pas vraiment de façon de revenir de ça. La peinture couleur peau, mais en même temps, même ça, c'est comme un espèce d'artifice très, très, très inquiétant. Mm-hmm. Il y a un doux de couleur peau qui vient d'entrer.
Mais ça va aussi avec les projets des savants fous aussi. Là. C'est comme des projets isolants qui vont complètement les mettre en retrait par rapport à leurs collègues ou par rapport à n'importe qui. La villa ou le château dans lequel Moreau, Frankenstein ou les autres font leur œuvre, c'est déjà une sorte d'isolement qui est comme répercuté par l'effet de l'invisibilité par la suite. Mais souvent, c'est les gens qui entrent, parce que ça, dans Invisible Man, c'est clair. Puis j'ai relu une BD du Canadien Jeff Lemire il y a quelque temps. Il s'appelle The Nobody. Il a sorti ça en 2009. Puis c'est vraiment une espèce de mise à jour du roman de Wells. Même le personnage s'appelle Griffin, avec un E. C'est tout à fait... Mais il arrive dans une espèce de village perdu, un peu. Puis ça fait penser dans une auberge. On est vraiment dans Wells. Puis ça, en même temps, c'est quand même intéressant parce que ceux qui connaissent un peu le MIR savent que c'est... L'aspect communautaire est assez important dans ce qu'il fait, même des projets plus personnels, mais aussi dans quelques-uns de ses projets pour le Big Two. Par moment, il travaille un peu ça.
Que j'ai moins connu, là, mais tu sais, sexe, ça paraît là, que c'est du truc de village. Puis...
Ouais. Puis en même temps, c'est comme des espèces de petites communautés perdues où des gens essaient de connecter de certaines manières. Mais là, lui arrive, déjà le titre Nobody, ça donne une idée sur le statut social du gars. C'est comme un vagabond qui a fait, lui aussi, c'est un scientifique qui a fait un peu un projet, puis qui va plutôt être là-dedans le révélateur. Parce qu'il y a une narratrice là-dedans qui est une fille de 16 ans qui faisait partie de cette communauté-là, qui l'a comme vue. Et là, c'est parce que lui-même fait à peu près rien, honnêtement, dans cette BD-là. C'est le personnage principal, parce que c'est comme le personnage titre à première vue, c'est lui qui est partout, mais il est plutôt une espèce de tremplin ou de moteur qui va plutôt déclencher les tensions, les passions chez les autres. Alors que lui est encore assez pogné, puis il essaie comme de s'intégrer, mais ça fonctionne plus ou moins bien, là, comme la plupart des autres personnages, à cause de son allure, de ce qui fait du mystère qui l'entoure. Là. C'est toujours des gens qui sont hyper mystérieux. Mais ça, je trouvais ça fun. Puis j'avais déjà lu que Lemire aimait Lynch, puis ça me surprend pas tant que ça. C'est dans Blue Velvet, où tu sais, le plan, où la surface et la façade merveilleuse du bungalow, de la bourgeoisie, là, on plonge dans la terre, le monde caché. Ça aussi, peut-être tantôt,
ouais, c'est ça, la surface, le deuxième monde, en fait, c'est aussi un autre filon que je trouvais qui était vraiment, vraiment intéressant. Puis oui, effectivement.
Souvent, il y a comme dans Blue Velvet, il y a comme un événement aussi qui déclenche un peu une enquête sur plein de plans qui révèle le noyau caché ou le... Ça, dans les fictions de l'homme invisible, on peut jouer quand même là-dessus aussi. Soit chez le personnage lui-même, souvent c'est ça, là. Mais dans la BD de Lemire, c'est pas... on dirait que c'est plus le révélateur, lui.
Ouais.
Le vecteur, plutôt que le héros, là, qui fait plein de choses.
Oui, ouais, c'est ça, c'est lui qui vient de changer la donne. Ouais. Mais c'est ça aussi, c'est très canadien aussi, cette histoire-là de l'homme qui est rentré au village et qui a fait tout changer,
l'ordre
survenant. Puis...
Non, c'est très proche. C'est le même esprit,
ouais. C'est quand même fort d'avoir pris... c'est beaucoup plus intéressant que qu'on pourrait le croire, parce que t'as quelque chose qui est imminemment canadien, mais qui est une présence british.
Ouais.
Parce que c'est H.G. Wells, c'est un personnage. L'homme invisible est pratiquement toujours anglo-saxon.
Ouais.
Parce que ça part de Siegfried. Là, que je voulais pas massacrer le nom, là, mais dans la Siegfried, qui est un des grands personnages mythologiques de la mythologie germanique, qui a le Tarn Kappe.
t'es bon.
Sérieux? OK. Qui est sa cape d'invisibilité. Et les mythologies ont été extrêmement bien étudiées par l'autre grand auteur de l'invisibilité, qui est Tolkien, que lui, t'as parlé de l'anneau, puis c'est lui qui a cimenté la liaison entre l'anneau et l'invisibilité, qui l'a fait de façon totalement différente, parce que t'es marqué. Dès que tu portes l'anneau, à la fois, t'es invisible. Ah, wow! Ouais. Ça vient de me frapper que t'es invisible, mais t'es visible dans le deuxième monde. Quand tu... Aïe, aïe!
C'est vrai, ça.
Je trouve ça extraordinaire comment c'est cohérent, comment tout fonctionne essentiellement, puis ça va fonctionner jusqu'à, comme on vous dit, l'ultime contemporain qu'on vous promet depuis tantôt. Mais cet anneau-là, l'anneau du pouvoir, c'est l'anneau du pouvoir dans Tolkien, c'est ça, qui à la fois rend invisible, à la fois rend visible aux yeux de Mordor, mais qui aussi place... fait une incursion dans l'individu qu'il porte. Il est à jamais changé.
Mm-hmm.
Puis, t'sais, pour revenir, c'est cool, parce que de revenir à Platon, de dire, lui qui pensait que celui qui pourra être, t'sais, celui qui deviendra invisible pourra exalter toutes ses pires passions, dans le One Ring, en fait, dans Tolkien, c'est l'anneau qui extrapole les pires passions. T'sais. Frodo est choisi et Bilbo sont choisis fondamentalement parce que c'est des individus pas intachables, mais incorruptibles.
Mm-hmm.
Mais personne est incorruptible dans l'univers de Tolkien, et c'est l'invisibilité qui est comme la porte d'entrée vers la corruption. C'est quand même super intéressant, ça. Hein?
Mm-hmm.
Puis c'est ça, c'est comment... Sans tomber dans le monomythe, là, on va aller si loin que ça, là, mais comment est-ce que l'imaginaire ça donne la touch, fondamentalement. Mm. Tu peux regarder dessiné par dessiné comment l'imaginaire autour de l'invisibilité prend la balle au bon, fait « OK, mais non, je vais penser à ça, je vais penser à ça. » Je trouve ça cool.
Mm-hmm. Non, c'est ça. Puis juste pour revenir à Nobody, c'est ça.
Oui,
c'est...
pardon.
Non. Excuse-toi pas. Tu peux t'emporter tant que tu veux. Non, mais c'est ça. Je veux dire, le personnage lui-même est comme pas. C'est pas le focus du tout. Puis même l'invisibilité est assez métaphorique là-dedans.
Ah,
justement,
ouais.
Ben justement parce que il y a la scène quand même obligatoire ou presque où il faut bien que le personnage se dérubane à un moment donné. Là. C'est comme une espèce de lieu commun. Puis c'est ça qui. Déjà, ouais.
Il est pas là.
Mais c'est ça. Mais tu sais, déjà, les gens voyaient un gars avec la face pleine de rubans. Déjà, une petite idée qu'il est pas normal. Il est pas tout à fait correct. Mais là, c'est sûr, quand on le voit, ça les renseigne un peu là-dessus. Mais lui, fait pas de. Tu sais, c'est pas une libération pour lui en tant que tel. Il fait pas grand-chose. Puis les allusions à l'invisibilité qui peuvent se faire des fois, on est dans la métaphore pure. J'avais gardé des petits bouts. Tu sais, il dit. C'est en anglais. Je vais le mettre en anglais, on peut le traduire après. « As weird as he looked, he was very good at not being noticed. » C'est aussi étrange soit-il. Donc, pourtant, on a là un gars qui il a beau être invisible, mais quand il essaie de se mêler dans la foule, on peut facilement le reconnaître à des milles. Mais il réussissait quand même, ça, ce qui n'est pas nécessairement le cas des autres personnages là, de ce genre de fiction-là, à se mêler jusqu'à un certain point. En étant visible, là, déjà là, c'est un facteur de différenciation, même... de rajouter cette apparence-là qui tranche encore plus.
Ouais,
mais ça, déjà là, sur le plan social, où là, on est plus dans la métaphore, mais c'est quand même encore une autre sorte d'invisibilité aussi.
Ben c'est ça, on est dans la métaphore, mais on est aussi dans la modernité de l'invisibilité dans la foule. Encore, vous voyez, on est en train de mettre les petites pierres pour parler, mais il y a un autre truc que je trouve qui est super intéressant par rapport à cet exemple-là, c'est de dire il n'est pas, t'sais, il ne sera jamais traité de façon normale pour Griffin et Griffin, de la même manière, parce qu'il est couvert de la tête aux pieds. Et quand il est découvert, il n'y a rien à couvrir. Ça fait que c'est comme, il n'y a pas d'entre-deux. Il est soit couvert de façon extrêmement suspecte, parce que tu fais comme, qu'est-ce que tu caches?
Ouais.
Mais quand il se révèle, il cache rien.
Mm-hmm.
Il n'y a aucun degré de...
Mais il peut comme pas se résoudre non plus à occuper ce vide-là. Puis il y a comme toujours la tentative de s'intégrer ou de participer.
Ouais.
Alors que pourtant, le projet a eu tendance à retirer les gens du social. Il y a comme souvent la tentation d'essayer de revenir. Mais comme tu dis, on est dans les extrêmes un peu. Là.
C'est ça, parce que tu pourrais mettre un nez. Tu pourrais faire un faux nez comme Griffin le fait, ou tu pourrais être une paire de lunettes. Juste mettre des lunettes pour être...
Mm-hmm.
Discernable, si on peut dire.
Hein?
Mais il n'y a rien de plus fréquent qu'une paire de lunettes qui se promène.
c'est
peut-être mieux d'être invisible que de juste être un spectre. Dans le roman Wells, c'est une affaire, je pense, que j'ai jamais revue nulle part ailleurs. Il y a un moment où il décrit qu'il digère et que la tracte digestive est apparente. Tu vois comme une espèce de pâte très... Tu vois faiblement la pâte.
Mais ça, je me rappelle pas, shit. Dans l'adaptation au cinéma de James Whale, je me rappelle pas si ça avait été montré. Parce qu'il y a une autre adaptation, justement, ou inspiration de l'homme invisible, qui s'appelle Memoirs of Invisible Man,
je pourrais
parler tantôt, mais l'adaptation au cinéma, c'est peut-être la scène la plus célèbre, ça. Comme de voir le personnage qui mange. Il y a comme on voit qu'il y a un veston, une chemise ouverte, mais on voit exactement tout le trajet de la bouffe...
Il le fait dans le...
Dans le film. Dans le film, dans le livre aussi, là, mais dans l'adaptation au cinéma, il fait. Fait que je me demandais ça, dans le film de 1933, si...
S'il y avait... Parce qu'il y avait
c'est décrit dans le livre, c'est ça, je me rappelais plus.
Oui, il décrit, puis c'est assez bizarre, parce que c'est ça, c'est... t'es un peu happé par la fantaisie, tu fais, il est invisible, puis là...
Il y a ça aussi.
Ouais, oh shit, c'est vrai, il faut qu'il mange.
Puis même dans le... C'est ça, souvent, c'est des personnages... Non, on disait la dimension érotique aussi, c'est parce que ça... Techniquement, en tout cas, c'est des personnages qui devraient aller souvent nus dans la vie.
Ben oui.
Puis là, il y a la famille. D'autres scènes classiques, c'est la pluie.
Bon,
quand quelque chose est là, on peut discerner le contour. Alors là, même dans le vide apparemment absolu là, du personnage qui échappe au regard, il y a encore juste assez d'indices pour qu'il soit perçu.
Mais t'as raison que ça devrait être un rappel continu quand on traite d'un récit avec une personne invisible, parce qu'il y a, il y a Sue Storm qui est la femme invisible, mais les Unstable Molecules font en sorte que le costume est invisible, et tout. Mais il faudrait avoir un rappel continu, comme un petit tintement de cloche, de fée clochette pour tourner la page, qui nous dit comme, ben là, il est à poil, là.
Ben, c'est ça.
Il est tout nu, là, il est encore tout nu. Puis à chaque fois qu'il y a une réunion, t'entends une voix décorporalisée, c'est comme,
ah,
tout nu. Tout le temps, t'es comme, ah, OK. Puis ça aussi, ça peut.
Mais ça, dans le roman de Wells, pas sûr qu'il a mis ça trop de l'avant.
Non, je pense pas qu'il... Mais ça peut faire partie de la distinction, de dire... Vous êtes des primates intelligents, mais vous êtes quand même habillés. Moi, je peux me permettre de me promener tout nu, puis là, l'empereur n'a pas de vêtements, puis on est dans un autre truc. Mais c'est ça, ouais, ça, c'est un autre truc vraiment cool que tu fais comme « Always naked, never naked, arrested development. » Ouais, on fait des liaisons. Tu sais, de l'autre côté, autant qu'il y a Tolkien, puis je pense que c'est un peu ça que ça fait, « Memoirs of the Invisible Man », ça recimente la science-fiction.
Oui.
Ça ferait vraiment...
Avec une couple de bifurcations. Déjà, le titre, là, ça nous place dans la tête de l'homme invisible, ce qui n'était pas le cas chez Wells.
Ouais.
Là, où il était un personnage, bon, qu'on... Ni dans la BD de Lemire, où c'était une narratrice externe qui parle un peu de lui. Là, c'est vraiment la vocation d'un homme invisible de raconter son histoire, du début à la fin, mais surtout à partir du moment où ça se gâte, là, parce que...
Ouais.
Il dit ce que je trouve intéressant. C'est un roman, donc, l'auteur de ce roman-là, H.F. Saint, on pourrait en reparler tantôt.
Non, on va en parler tout de suite.
On va en parler tout de suite,
ouais, parce que c'est super intéressant.
Parce que c'est un gars qui a écrit un seul roman, celui-là, qui a été un gros succès. Pourtant, ça arrive des fois, il me semble, des énormes succès qui...
Ça disparaît.
Disparaît. Entre autres, l'adaptation au cinéma a foiré, là. On pourra en parler aussi. Mais non, c'est ça, c'est un roman même qui a été acheté. Les droits cinématographiques ont été achetés avant la parution. Donc déjà, on sent que la prémisse ou le thème de l'invisibilité, c'était gagnant à ce moment-là.
Ouais.
Il y avait déjà quelque chose là. Mais c'est aussi le titre lui-même qui annonce le projet d'un homme invisible qui se raconte. Mais donc, c'est ça, cet auteur-là, un seul roman, puis c'est presque un homme invisible, honnêtement. Parce qu'on voit sur le net des fois des gens qui disent « Non, je le connais, mais je connais quelqu'un qui l'a connu. » Il existe vraiment.
C'est
pas
fou,
un pseudonyme, c'est un vrai gars. Si tu essaies de trouver des notions biographiques sur lui, ça va être des petits morceaux éparpillés. Et pourtant, bon, on pourrait dire, justement, c'est comme on disait des personnages qui prennent l'invisibilité comme un pouvoir de libération pour tout faire. Lui aurait pu prendre ce roman-là vraiment comme un tremplin pour une carrière assez merveilleuse.
Ouais.
Mais non, lui, c'était entre autres, ce qu'on sait, c'est qu'il a écrit en partie pour payer les études de ses enfants. À 2,5 millions pour l'adaptation cinématographique, je pense qu'il aurait pu en avoir 500 enfants.
Ben c'est ça, c'est... Mais là, c'est drôle qu'à l'extérieur de la fiction, on a un gars qui a fait « je vais devenir invisible pour le bien des autres. » Yes, il y en a un!
Ça a marché.
Ouais.
C'est ça. Donc, le roman, c'est ça. Puis, c'est un personnage, moi, ce qui m'intéresse dans ce roman-là, c'est bon, c'est très, très, très détaillé. Là. C'est 450 pages serrées. Puis, ça, j'avais noté ici, il y a 50 pages quand même avant l'accident qui le rend invisible. Puis, c'est un accident. C'est pas un scientifique. Mm-hmm. C'est un gars qui travaille dans les finances à Wall Street. C'est un roman qui est paru en 87 aussi. Donc, c'est la même année, d'ailleurs, je pense que le film Wall Street. Bon, je pense à...
Oh, shit, oui!
Même The Bonfire of the Vanities, des romans à gros tirage, un peu dans ces univers-là.
C'est vrai?
C'est comme une conjoncture. Donc, il est là-dedans, puis il est vraiment tombé invisible par pur hasard. Là. Il allait, je sais pas, aller regarder d'un point de vue financier dans une espèce d'industrie de haute technologie, micro-magnétique. Et là, je pense que c'est des espèces de marxistes militants qui auraient causé cette explosion-là pour... Bon, qui étaient un peu contre le nucléaire et ces choses-là. Mais bon, c'est pas ça.
C'est méchants marxistes.
Ah, les méchants marxistes, c'est toujours de la faute. Ils ont causé, c'est un pauvre travailleur de Wall Street à devenir invisible, avec une portion du building aussi. Au début, c'est ça, il se rend compte qu'il a disparu. Donc là, il se dit, j'ai-tu perdu des membres à quelque part? J'ai été amputé. Après ça, il se dit, je suis devenu un fantôme. Puis là, tranquillement, il se rend compte, puis il regarde même autour de lui, même le plancher disparaît. Il a l'impression d'être presque au-dessus d'un cratère, puis il comprend tranquillement la situation dans laquelle il est.
Mm-hmm.
Et là, son but premier, c'est de se sortir de ça, mais ce ne sera pas si simple, parce que, bon, c'est quand même une firme, un lieu assez en vue là, pour la technologie de pointe. On guette ça déjà depuis un certain temps.
Okay.
Et on va vouloir se servir de lui. Là. C'est comme une espèce de cobaye, là. Pour des opérations d'espionnage.
Ah ouais?
Étant donné, quelqu'un qui est invisible peut, entre autres, échapper à tout. Donc, on a des projets pour lui. Convaincre pour lui, en tout cas. Mm-hmm. À lui imposer. Mais lui, il réussit éventuellement comme à se sauver de cette place-là. Puis à essayer de retrouver sa vie. Donc là-dessus, c'est bon, lui aussi essaie de réintégrer son... Mais lui, il reste tout nu plus longtemps. C'est encore, encore pire avec les autres... Parce que, comme je disais aussi, c'est un personnage qui sait qu'il y a des fictions sur l'homme invisible qui existent déjà.
Ah, ouais,
il sait un peu ce que le lecteur est en droit d'attendre. Puis même avant qu'il devienne invisible, il était comme déjà dans une espèce d'entreprise de séduction là, d'une journaliste qui commençait à fréquenter. Puis il décrit, bon, de façon aussi détaillée, cette scène-là qui va décrire bientôt son invisibilité.
Okay.
En s'en excusant presque. En disant, bon, pensez pas que c'est le lot de ma vie. Là. J'ai une vie plate. Par ailleurs, mais là, je sens que je dois documenter ce qui a mené à cet accident-là et surtout ce qui va suivre après.
C'est.
Mais donc, il.
Super intéressant.
Mais c'est comme. C'est un thriller quand même assez rudimentaire aussi. Là. C'est comme un chase story là, où le FBI cherche le bonhomme un peu qui est pris au piège. Donc, il y a quelque chose d'assez conventionnel, puis il joue pas la carte postmoderne, métafictive tant que ça.
Ouais.
On dirait. Il aurait pu aller vraiment plus, là. Mais là, c'était vraiment... C'est quand même un... Je veux pas...
Pendant que vous lisez cette page, je suis derrière vous.
Ben, c'est ça. C'est quasiment ça. Mais tu sais, c'est, je veux pas blâmer les... On dit que les fictions en gros tirage...
Non.
Parce que des fois, ça y va fort. Mais là, on sent quand même que, bon... C'est un roman qui, d'un côté, est un peu osé et, bon, moins prudent, disons, que d'autres fictions sur l'invisibilité.
Ouais.
Mais en même temps, il ménage, bon, tous les rebondissements attendus là, dans un roman de suspense aussi. Fait que ces espèces de petites intrusions-là dans une sorte d'homme invisible qui connaît ses pairs, d'une certaine façon.
Ça. Mais encore la modernité, hein. Tu sais, de l'amener dans quelque chose de... Tu deviens un Black Ops, pas n'importe quoi, tu sais. c'est aussi quelque chose que Bret Easton Ellis aurait probablement rêvé faire.
Je pensais à American Psycho tantôt. Là.
Ben c'est ça, tu sais. c'est drôle parce que la notion d'invisibilité est moins... est pas... concrètement là, mais dans Invisible Monsters de Chuck Palahniuk, où il y a ces individus-là qui ne sont pas proprement dit invisibles, mais qui sont tellement grotesques qu'ils sont ignorés, deviennent la réflexion d'un Américain de contrôle. T'sais. C'est une espèce de folie du glamourama, qui est une expression qu'on pique allègrement. Mais ça fonctionne très, très bien. T'sais. Puis l'autre truc que tu racontais, c'est que bon, malgré qu'elle a échoué, l'adaptation nous provient du grand John Carpenter, était traité comme un véhicule pour ramener...
Pour ramener Chevy Chase.
Ouais.
Parce que Chevy Chase lui-même était, je pense, dans le groupe de gens qui avaient les droits là, sur l'adaptation. Et lui, dans sa tête, il allait profiter de ce film-là pour...
Pour redevenir visible.
Oui, c'est exactement ça. Puis même s'établir une réputation dramatique. Parce que lui, ça, j'ai lu ça, là, il voulait mettre l'accent sur la solitude de l'homme invisible. Je sais pas si lui, il avait en tête une espèce de drame émouvant aussi. Là.
Ouais.
Lui, il voulait se créer une réputation peut-être plus dramatique à travers ça. Mais c'est ça, parce que je réfléchissais à ça cette semaine. Je me dis, il y a quelque chose d'un peu paradoxal à première vue, de prendre un rôle d'homme invisible dans l'espoir d'être plus présent que jamais, de revenir à l'avant-scène. Mm-hmm. Alors que quand on voit le film, c'est ça qui est source de compromis, qui est réécriture multiple, à cause, entre autres, du fait que la star voulait s'en servir comme véhicule
dramatique,
pour revenir.
Carpenter, tu vas me faire un film qui va me gagner un Oscar.
Tu sais, on sent...
quoi?
Autant Carpenter capable de pousser là, des fois des thèmes super intéressants, là, on sent qu'il est un peu à la merci là, de sa vedette et du reste. Mais non, c'est ça. Puis d'un côté, je trouvais ça un peu absurde. Hein. Tu profites d'un rôle d'homme invisible pour te mettre de l'avant. Quand on voit le film, on voit qu'il n'est pas là dans bien des scènes. T'as son contour quand il est tout nu. Je ne sais pas si tu aimais ça, se montrer tout nu là, live, mais bon.
J'avais Chase, probablement, mais
ça cadre assez bien.
Ouais.
Mais il cadre assez bien. C'est sûr, j'ai pas pu, parce que j'avais vu l'adaptation il y a longtemps. Quand j'ai lu le roman, malheureusement ou heureusement, je sais pas, j'ai pas pu m'empêcher de le voir. Ça, c'est bizarre un peu. Ça aussi, c'est particulier, parce que même dans... Je sais pas, dans Invisible Man, je me souviens pas en voyant le film, parce que je pense que j'avais vu le film aussi avant de lire le livre. Je suis pas sûr que là, le visage m'avait frappé tant que ça. C'était Claude Reims dans le film. En le lisant, c'était comme il y avait une déconnexion, mais là, c'est comme si la vedette était présente là-dedans. Donc ça, d'un côté, je trouvais ça bizarre, mais en même temps, je me disais, ça ramène le fait que oui, t'es invisible dans le film, mais t'es très présent par ailleurs. C'est comme un autre type de présence qui peut être... Sûr, ça peut être le fun, j'imagine, pour un acteur aussi. Hein. Exclusivement invisible, je sais pas. C'est comme faire du voice-over, finalement.
Ben, c'est
t'es
un peu
comme pas là, puis oui, tu parles, puis on sent que c'est toi parce que ta voix se fait entendre.
Ouais. Ou, pour continuer dans les thèmes d'Alan Moore, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé avec Vendetta. de jouer une performance dramatique avec un masque, qui est comme le gros interdit hollywoodien. Carl Urban qui a fait un demi-masque pour Dredd. Mm-hmm. Tout le monde avait la chienne qui refasse un Stallone et qui enlève le masque tout le long.
Ouais.
Sinon, il y a quand même quelque chose. C'est vrai que c'est pas le truc...
Parce que le star power, en général, c'est visible.
Ben,
c'est
exactement.
Une image à rentabiliser en même temps.
Et l'invisible, c'est encore l'autre. T'sais, l'invisible ne veut pas... Tu veux pas prendre le personnage invisible comme ton personnage principal. Mm. Ça fonctionne pas. C'est toujours, même dans les... Même dans la science-fiction la plus éloignée, l'invisibilité est toujours un attribut qu'on donne à l'ennemi puis à l'autre le plus extrême. T'sais. Dans Star Trek, c'est les Romulan Warbird qui ont cloaking technology. Les Klingons l'ont pas. Et les Klingons deviendront des alliés des alliés à contre-cœur, si on peut dire, de la Fédération. Les Romulans, eux, ne deviendront jamais, si je me rappelle bien. Ils sont la chose la plus loin de la Fédération. Mm-hmm. Non, en fait, c'est les Borg. Mais les Borg ont cloaking technology. Donc, ils sont un peu nous.
Quand tu dis l'invisible et l'autre aussi, je trouve ça le fun parce que, comme là, le cas entre le livre et le film, c'est sûr que dans le film, l'aspect des mémoires d'un homme invisible, tu le perds. Là. T'as beau mettre un peu de narration pour dire « je vais vous raconter mon histoire », ça passe par l'image, par le visible déjà, même que ce soit le contour ou le visage enrubanné ou quoi que ce soit. Tandis que dans le livre, ça, c'est quand même une de ses vertus pour moi, que d'essayer vraiment d'entrer dans sa tête.
Oui, parce que t'as la première personne.
Ouais. Oh, parce que même dans d'autres romans, tu le traites comme un personnage un peu qui fait partie d'une espèce de mosaïque de personnages ou qui libère les autres. Mais là, c'est vraiment d'essayer de se... Puis ce que je trouvais le fun aussi, c'est que, bon, il est dans les finances. C'est sûr qu'à première vue, il perd son nom, il perd son identité. Là, mais sachant comment l'argent fonctionne, il est capable d'opérer à distance là, de ça.
Ah ouais.
L'argent, ça transite de façon assez invisible, souvent. Pour le légalement ou non,
Mais c'est intéressant parce qu'au-delà de son apparence, il a quand même une façon de...
Puis il réussit quand même, il négocie avec un courtier à distance. Il est capable de se rétablir socialement et financièrement, surtout sans problème. Il connaît comment la game invisible de l'argent fonctionne. Donc ce métier-là, je trouvais ça bien aussi, non? Parce que d'un côté, on disait tantôt, il y avait une espèce de... Pas une mode, là, mais beaucoup de fiction ou de romans des années 80, 90 aussi, jouaient dans ces plates-bandes-là de Wall Street.
Oui, on interrogeait cet imaginaire-là, vraiment, là, qui commençait à être trop... en même temps, c'est ça, c'est cette subjectivité-là, puis là, on a nos deux derniers bases à couvrir avant d'arriver à la maison. Cette idée-là que, parce que c'est une mémoire, on le voit de ses yeux, puis parce qu'on le voit de ses yeux, on réussit à comprendre son monde. Comprendre son monde, c'est aussi de partager, ou du moins de pouvoir le suivre dans l'aventure des deux mondes, comme on disait. Mais tu as parlé de Blue Velvet. Blue Velvet commence aussi avec une expérience subjective, que toute cette scène-là de l'horreur de l'autre monde est vue à travers une caméra subjective.
Puis John Carpenter, juste pour plugger,
parce
que j'ai revu des livres il n'y a pas longtemps. Puis ça, pour
avec
moi,
raison.
C'est une des. Justement, du monde caché qui est invisible à tout le monde.
C'est vrai.
Puis Roddy Piper, son âme est décédée il y a peu de temps. Mais qui est un everyman là-dedans, en tant qu'acteur aussi, c'était pas son métier, particulièrement à ce moment-là. Bien que, en tout cas... Ça viendra plus tard. Mais tout ce monde caché-là, ça peut être un autre angle aussi qui est souvent exploité. Il n'y a pas d'homme invisible, mais il y a toute la dimension, entre autres, des envahisseurs là-dedans, qui ont un aspect humain pour à peu près tout le monde.
Ouais.
Et qui, lui, trouvant ces lunettes-là, qui n'auraient pas dû se trouver dans les mains de personne, découvre
Anneaux,
que,
lunettes.
On est encore dans le... Il y a beaucoup dans la vision. Ouais.
L'artefact aussi, l'artefact qui transforme les choses. Mais c'est ça, c'est que Piper bascule dans un autre monde, un monde que l'on considère invisible, mais qui est perceptible avec un autre. Avec un changement de parallaxe.
C'est lui qui travaille le plus le monde dans lequel on est, finalement. Même si à première vue, il n'est pas là.
C'est ça,
l'invisibilité.
Ouais, parce que c'est ça. L'accessibilité à l'invisibilité nous permet peut-être de voir la structure sous-jacente, de voir qu'est-ce que. Ça nous permet un regard sur les tensions, les forces. Je parlais de... On parlait ensemble de Midnight Nation, de Straczynski, le comic où un personnage tranquillement tend vers l'invisibilité. Encore, c'est très, très, très raconté du point de vue du personnage, mais le plus que lui devient invisible, le plus qu'il accède à... ou du moins, le plus qu'il glisse dans un monde inexistant, en fait. Le monde que l'on connaît pas, le monde des dynamiques sous-jacentes. Ça, c'est très intéressant. Puis c'est... de traiter, tu vois, au-delà du bien et du mal du personnage, du narrateur, ou peu importe, on est en train de traiter non pas de l'invisibilité d'une personne, mais de l'invisibilité du monde. Mm-hmm. On voit, tu sais, on sait très bien qu'en science, on a déterminé qu'on voit la réalité simplement avec les objets qui nous permettent d'être capable de scruter cette réalité-là, mais que le spectre des possibilités est beaucoup plus large. On n'a pas la possibilité de voir en infrarouge, ça n'empêche pas le fait qu'il y en a. C'est la même chose avec l'invisibilité. T'sais. L'invisibilité va nous donner l'accessibilité, va nous ouvrir la porte des perceptions pour, excuse-moi, je plug des titres de lignes à gauche puis à droite, pour aucune raison de tantôt. C'est vraiment comme, je me sens comme je suis en train de plugger la collection Folio au complet. On voit ce monde-là, que ce soit qu'est-ce qui se passe avec Karl McLachlan, que ce soit qu'est-ce qui se passe avec le personnage en Midnight Nation, mais au final, tous ces individus-là finissent par, tu sais, c'est ça, dans Memoirs, excuse-moi, je reconnecte à ce que je suis en train de dire, Memoirs, il comprend l'univers à travers l'argent. T'sais, l'argent est un unseen force, un unseen hand ici. Fait que t'es capable de la jouer, ça, là aussi. Ouais. C'est fort. C'est très fort. Parce que ça nous amène à l'ultime contemporain, où on ne le voit plus, le monde. On en est très conscient depuis fondamentalement plus ou moins quelques jours, 15 ans, 14 ans maintenant, excusez. Le monde a changé et est devenu un monde de invisible, un monde où les choses laissent des traces. L'univers est pratiquement un univers composé essentiellement de figures et qu'on on est plus que jamais dans cette dichotomie-là du visible et de l'invisible. Ton article, c'est essentiellement vers ça que ça ouvrait, puis que je trouvais que ça en parlait beaucoup. Le fait que l'invisible, la notion d'invisibilité qu'on a mentionnée et que je reprends au bon ici, l'invisibilité dans la masse, se perdre dans la foule. On a parlé de Hugo Weaving, on a parlé du masque d'Anonymous. Encore, on n'en a pas parlé pour rien. La perte dans la foule, l'invisibilité, l'Internet, la société de surveillance, le CCTV, et ainsi de suite.
Ashley Madison.
Ouais, ben oui, c'est, ouais, ouais. C'est très drôle parce que autant qu'on parlait qu'il n'y avait pas d'exemple positif, on est peut-être dans la première époque qui va en nécessiter un. L'invisibilité, lorsque donnée à une personne avec des intentions pures et nobles, est devenue essentiellement la seule façon de vivre la justice. Puis Batman peut être un individu invisible à occasion, mais le mouvement Anonymous et tout ce qui en découle, c'est essentiellement ça. T'sais, c'est de dire on ne peut pas être une personne. Ben, en fait, nous sommes multitude en une, mais une personne ne peut pas demander justice parce qu'il est sujet identifiable. Voyons voir si, en utilisant le pouvoir de tous, on est capable d'arriver à de quoi de plus fonctionnel. Fait que là, Anonymous nécessite la bonté.
Une confiance aussi, un peu.
Et tout ça, parce que j'avais quand même pas le choix de parler de ça, tout ça sont des trucs... thématique et thématisé énormément dans le opus qu'on a déjà parlé. En fait, on a déjà consacré une émission au grand complet là-dessus, The Invisibles de Grant Morrison et d'une multitude d'artistes où ces individus-là sont des freedom fighters, sont des soldats anarchistes, contestataires, et ainsi de suite, qui doivent vivre dans une invisibilité totale, tout en étant très visibles à l'œil nu, puisque ce sont des excentriques. On a des travestis, on a on a le Marc Tissade habillé en cuir dedans, là. C'est la première affaire que tu remarques quand tu rentres quelque part. Mais c'est essentiellement ce groupe-là qui revendique leur droit à l'invisibilité et qui utilise cela pour aller défaire et démolir tous ces engrenages sous-jacents-là duquel on parle depuis tantôt. C'est-à-dire que The Invisibles, bien avant Anonymous, même bien avant le 11 septembre, avait vu le potentiel, et du moins même l'aspiration, et même l'objectif ultime d'une humanité proche du hive mind, clairement, dans l'invisibilité. T'sais, de dire, bon, le récit invisible, bénéfique par excellence, serait celui du Freedom Fighter, serait celui de la personne qui devient personne, qui n'a plus d'identité pour aller, puis encore, je viens plugger un autre truc, l'invisibilité, mais pour aller décortiquer qu'est-ce qui est arrivé dans le Philadelphia Experiment, qui est un autre op très intéressant, ou très important, ou très récurrent par rapport à l'invisibilité. L'armement invisible.
Mais ça, c'est un autre genre de libération là, qui permet l'invisibilité. Ça permet d'élargir un peu le propos par rapport au mythe de Platon, là, pour boucler la boucle en même temps, où la libération était perçue comme juste l'espèce de... un laisser-aller vers les pires tendances qui avaient été étouffées jusque-là. Là, je trouve que, dans le fond, ce que tu développes là en même temps, c'est comme un élargissement en même temps de cette notion-là de libération,
ouais,
qui permet de sortir d'une espèce de prison dans laquelle on est maintenu, puis qui devient pour avoir droit au chapitre, au fond, voix au chapitre avec ça.
Ah.
Mais non, c'est ça. Parce que là, c'est une vision plus positive, parce que la vision positive de Socrate était, pas que c'était ridiculisé, mais longtemps, on perçoit ça juste comme une pure naïveté. Mm-hmm. Quand tu mets ça en lien avec les fictions subséquentes, tu te dis, ouais, c'est pas grand monde qui sont d'accord avec ça. Mais là, je pense que le monde dans lequel on est ouvre de nouvelles possibilités là-dessus.
Oui, ben c'est pour ça que la thématique se prête beaucoup à une émission comme Pop en Stock, puis au final, devient quelque chose de potentiellement très intéressant, parce que tu pars du mythe de l'exploration du truc le plus fantastique possible, et le plus qu'il est... Bon, là, on a parlé énormément de culture pop de par la mission de l'émission. Le plus qu'il est récupéré, le plus qu'il devient... un truc qui parle de nous, mais qui évolue. L'invisibilité est vraiment quelque chose qui évolue. Et je trouve que l'émission a quand même bien dressé ce portrait-là. Je veux vraiment, vraiment, immensément te remercier de ta présence.
Ça fait plaisir.
C'était très fort, puis parce qu'il faut qu'on quitte. malheureusement, l'émission tire à sa fin, mais elle existe, cette progression-là, de l'imaginaire de ce trope-là de l'invisibilité. Fait que merci énormément, Philippe Saint-Germain, de ta participation. On se revoit. En fait, c'est vrai, j'ai pas du tout mentionné le fait qu'à partir de maintenant, j'aurais peut-être dû le faire en début d'émission, mais hey, quand on a du plaisir, on a du plaisir. Pop en Stock revient à son format original. Comme vous avez vu, on redevient des émissions de 1 heure, mais aussi, conséquemment, ça redevient une émission hebdomadaire. Donc, dès la semaine prochaine, on va avoir une autre émission, cette fois-ci animée par Hélène Lorrain, qui va nous parler du grand Freddie Mercury et de Queen. Bonne semaine, tout le monde, et à la semaine prochaine.
festival Les Escales Improbables de Montréal revient pour une 12e édition entre sieste musicale, théâtre, danse, poésie, installation et arts visuels. Noise India, un fascinant road movie multimédia dans les ports d'Inde. Entre documentaire et fiction, découvrez les Shipbreakers. Avec les fantaisies des escales brouillon numéro 2, débranchez-vous de la routine. Une grande soirée où se rencontrent musique, cirque, arts visuels en direct, projection. Vous voulez participer à une expérience théâtrale collective avec les deux artistes portugais Ana Borralho et Juanjo Galente? Atlas Montréal, c'est une véritable agora qui réunit 100 citoyens de toutes professions, générations et origines. Venez voir une expérience humaine unique. Achetez vos billets et découvrez toute la programmation sur escaleimprobable.com.
Du 16 au 20 septembre, le Festival international de musique pop Montréal présentera sa plus grande édition à ce jour. La 14e édition du festival prendra d'assaut un paquet de salles de spectacle, de clubs, de théâtre